Seigneur, nous voici encore devant ta parole. Donne-nous un cœur ouvert, Seigneur. Donne-nous des oreilles pour entendre. Et si jamais elle nous heurte ou nous blesse, Seigneur, c'est pour notre bien. Parce que tu fais la plaie, mais tu guéris aussi, Seigneur. Si elle nous déstabilise, Seigneur, c'est peut-être pour mieux nous ancrer sur le roc qu'est ta parole. Et si elle pénètre dans nos ténèbres, Seigneur, c'est sans doute pour mieux éclairer ce chemin futur que tu veux ouvrir devant nous. Ta lumière est une lampe, Seigneur, à mes pieds. Une lumière sur notre sentier. Amen. Le mois précédent, nous avions commenté cette parole de Jésus qui se trouve au chapitre 21, au verset 24 de l'évangile de Luc, pour ceux qui prennent des notes. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que l'étang des nations soit accompli. Parole prophétique, bien qu'énigmatique pour la plupart des chrétiens. Nous avions vu qu'au début de la genèse de l'histoire biblique, il n'y avait ni juifs ni grecs, mais simplement quelques familles, pour la plupart nomades, qui se déplaçaient au gré des pâturages et des sources d'eau afin de vivre ou voire de survivre. Les nations n'existaient pas encore. Et ce n'est qu'après le déluge que les fils de Noé vont se disperser sur la face de la terre et se constituer en nations. Les continents n'avaient pas commencé à dériver, c'était donc ce qu'on appelle la Pangée. Ça me fait penser à une blague, c'est un jeune qui passe le bac, et on lui parle des continents, et ils disent « Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les continents ?» Et il dit « Les continents dérivaient peinards. » Plus tardivement, Dieu, à travers Jacob, va se constituer un peuple, Israël. Il lui donnera une terre, Canaan, une loi, la Torah, et après avoir délivré celui-ci de l'esclavage en Égypte, puis après lui avoir choisi un roi, selon son cœur, David, et habité dans le temple que lui construira son fils Salomon, Dieu, devant la déchéance de son peuple, ses prostitutions, ses idolâtries, va envoyer celui-ci en déportation à Babylone pour 70 années, afin qu'il revienne à lui de tout son cœur. Vous qui étudiez Jérémie avec Matthias, vous en entendrez certainement parler. Ainsi, dans l'histoire de toute l'humanité, il n'y a que trois sortes d'individus. Les juifs, les nations, appelées ailleurs les gentils, et après la mort et la résurrection du Christ, les chrétiens, qui forment eux aussi un peuple nouveau que l'on appelle l'Église. Si vous perdez de vue ça, vous n'allez rien comprendre à la Bible. Les juifs, les nations païennes et l'Église. Ce qui fait dire à l'apôtre Paul qu'en Christ, lorsque l'on donne sa vie à Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Voilà pour faire court. Daniel et trois de ses compagnons seront emmenés en déportation à Babylone comme eunuques, et surtout pour servir à la table du monarque comme c'était l'usage à l'époque. Daniel, le prophète, est le seul à pouvoir interpréter le rêve, voire le songe, que Nebuchadnezzar a fait pendant son sommeil, et c'est justement ce songe qui nous permet de discerner que c'est le commencement du temps des nations dont nous a parlé Jésus dans l'évangile de Luc. Nous allons relire ce texte dans Daniel au chapitre 2, des versets 31 à 45. Voici, je passe le chapitre 2 au début parce que il s'est répété deux fois, il fait le son, je demande l'interprétation et ainsi de suite. Et Daniel arrive devant donc Nebuchadnezzar, s'il vous plaît, c'est pas rien Nebuchadnezzar, hein, d'où est tiré le célèbre opéra Nabucco. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais cette statue lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en plein été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Première remarque. Voici ce que dit ensuite dans l'explication du songe. Daniel dit « Voilà le songe. Nous allons en donner l'explication devant le roi. » Daniel s'adresse à Nebuchadnezzar et lui dit « Ô roi, tu es le roi des rois. » C'est intéressant parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, il y a certains rois qui avaient cette appellation. « Roi des rois, lion de la tribu de Juda. » Oui, plus fort.
Le Négus.
Le Négus. Pourquoi ? Quel rapport ? Quel rapport ? Eh bien, vous connaissez l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. Et ceux qui se sont succédés sur les trônes avaient gardé ce titre, roi des rois, seigneur des seigneurs, lion de la tribu de Juda. Et voici ce que dit Daniel. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Voilà pourquoi il est la tête d'or. Nebuchadnezzar a reçu ce royaume directement de la main de Dieu. Et c'est sans doute dans toute l'histoire des nations le royaume le plus somptueux qui n'y ait jamais eu. D'ailleurs, au chapitre 4 de ce même livre de Daniel, Nebuchadnezzar fait de nouveau un songe. Et de nouveau, il demande à Daniel de l'interpréter, ce qu'il va s'empresser de faire. Et voici ce qu'il nous est dit. Il s'agit d'un arbre immense, sans doute un cèdre, sans doute un cèdre. Et voici ce que Daniel révèle à Nebuchadnezzar au chapitre 4 et au verset 17 et 19. Je vous lis ça. Il y a eu une sentence, il y a eu un décret. Et Daniel dit, cette sentence, ce décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints qui sont dans les cieux, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. » Autrement dit, Daniel est en train d'expliquer à Nebuchadnezzar que s'il a hérité ce royaume, ce n'est pas par sa force ni par son intelligence, mais c'est parce que Dieu lui a donné. Lorsque nous continuons à interpréter la statue, nous allons nous apercevoir qu'il n'en est pas ainsi pour les autres royaumes qui vont succéder à Babylone. Mais nous verrons cela un autre dimanche. Puis, pour enfoncer le clou concernant la suprématie de Babylone sur les autres nations, voilà que Daniel lui-même, au chapitre 7, et ça s'est répété uniquement que pour le royaume de Babylone, voici ce qu'il nous est dit, il y a un songe, voire plus, des visions concernant Babylone et les royaumes qui lui succéderont, chapitre 7, versets 1 à 7. Et je vous lis. On est toujours, attention, ne perdez pas le petit, qu'on est toujours dans cette fameuse parole de Jésus à la sortie du temple qui dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Il ne faut pas perdre ça de vue. Je ne vous raconte pas des petites histoires. Je vous raconte une parole de Jésus qui, entre son début et sa fin, a 2500 ans d'écart. Dans la même parole. Voici le songe. Toujours à Babylone, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, c'est le fils de Nabucco, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il a eu la bonne idée, c'est bien, d'écrire son songe. Et il raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » La mer, dans la Bible, c'est souvent la mer du monde, ça parle des nations. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un corps d'homme lui fut donné. C'est Babylone. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » C'est l'empire des Mèdes et des Perses. C'est l'histoire. Vous prenez un livre d'histoire et vous allez tomber dessus. C'est pas du réchauffé. Après cela, je regardais et voici un autre animal, une bête, semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Le léopard fait illusion à Alexandre le Grand. Vous savez qu'Alexandre le Grand, il a vécu 10 ans, de 23 à 33, il est mort subitement. On dit qu'il est mort de rire, tellement il disait, en 10 ans, il a conquis tout le territoire. C'était extraordinaire. Et puis après, voici le quatrième animal. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Ce quatrième animal, ce quatrième royaume, c'est l'Empire romain. Il sera un décuple unité, c'est-à-dire 10 orteils comme la statue et 10 cornes, mais tous unis en la personne de l'Antichrist. Ce quatrième empire mondial, nous le verrons plus tard, un autre dimanche, qui renaîtra sans doute à travers l'Europe au temps de la fin. Mais revenons à notre premier royaume. Babylone. C'est à Babylone que la tour de Babel fut entreprise et qu'il y eut la confusion des langues. Sous le roi Hammurabi, la ville devint la métropole de la Babylonie, dont elle fut dès lors le centre politique et religieux. Elle atteignit l'apogée de sa gloire au VIe siècle avant Jésus-Christ, sous Nebuchadnezzar, qui la développa beaucoup et en fit la plus grande et la plus belle capitale de son temps. Ça fait partie des 10 merveilles du monde, Babylone, n'oubliez pas. Et je crains fort que lors de l'avènement de l'Antichrist, une seule langue soit parlée, qui, à mon avis, sera l'anglais. Je vous dirai pourquoi dans quelques dimanches. Mais ce qui caractérise le plus Babylone, c'est le fait que cette génération veut se faire un nom. Ah, c'est très intéressant. La marque de la bête avant l'heure, se faire un nom. Il est dit plus loin dans le texte, Rappelez-vous quand les hommes ont commencé à construire la tour et la ville, et ils ont dit « Bâtissons-nous une ville, bâtissons-nous une tour », et ils se sont dit « Faisons-nous un nom ». C'est très intéressant. Et il nous est dit un peu plus loin dans le texte que Dieu, Yahvé, est descendu, écoutez bien, Dieu est descendu pour voir la ville et la tour que les hommes s'étaient construits. Donc, si je comprends bien l'écriture, Dieu est descendu en vue de s'informer avant de se prononcer. Dieu descendit pour voir. C'est un principe qu'il donnera plus tard à ceux qui jugeront les tribus d'Israël, c'est-à-dire la tribu de Dan, ce sera la tribu des juges. C'est-à-dire de ne pas condamner qui que ce soit ou quelque chose avant de se rendre compte par soi-même. Répétons-le, Dieu n'avait pas besoin de descendre pour voir. Mais comme il va déjouer le plan machiavélique de Nimrod qui règne à Babylone, il fait le déplacement pour juger la situation Ikénak ici et maintenant. Cela signifie, on est toujours avec Babylone, qu'en soi l'édification d'une ville ou d'une tour n'avait rien d'illicite. On a le droit de construire une tour et on a le droit de construire une ville. Et que l'aspect pernicieux de leur construction, aspect qui risquait de compromettre tout l'avenir moral de l'humanité, doit être cherché dans leur but et leur motivation. Pourquoi construire cette tour et pourquoi construire cette ville ? Pour se faire un nom. Et manifestement, si je lis bien le texte hébreu, l'accent est mis sur le but avoué de la construction. C'est clair, c'est répété plusieurs fois, c'est pour nous faire un nom. Naasa lanu shem. Et ce qui est intéressant, c'est que après le déluge, Dieu va repeupler le monde avec les fils de Noé, et le premier fils de Noé, comment s'appellera-t-il ? Shem. Un hasard ? Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Dieu veut se refaire un nom. Nous disons Sem, mais en fait c'est Shem. Nous disons Cham, mais en fait c'est Ram. Nous disons Japhet, mais en fait en hébreu c'est Yafet. Qui prononce ce nous ? Qui dit « faisons-nous un nom » ? C'est l'ensemble d'alors de l'humanité. Et si la collectivité humaine dit « faisons-nous un nom », cela ne peut se réaliser que vis-à-vis d'autrui ou d'une autre puissance. Est-ce que nous comprenons là ? Si nous, je dis « demain, il faut que je me fasse un nom », mais c'est bien par rapport à quelqu'un d'autre. Eh bien, « faisons-nous un nom » par rapport à une autre puissance, laquelle ? Celle du Dieu de la création. La collectivité n'est pas obligatoirement néfaste si chaque individu qui la compose n'y perd pas son identité et sa liberté. Ce qui n'est pas le cas avec Babel, car Nimrod, le roi, est l'un des plus grands tyrans que la terre ait porté. Nimrod est l'un des plus grands tyrans que la terre ait porté. Il sera maudit. Hein? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Noé a échoué sur le mont Arara, qu'il est sorti de l'arche? Il a planté une vigne, nous dit le texte. Et à mon avis, il a un peu trop biberonné le vin de la vigne. Il s'est retrouvé tout nu dans sa tente et son fils Cham, Ram, est entré et a vu la nudité de son père. Et il en a rigolé et il est allé raconter l'histoire à ses frères. Et Noé, ayant appris cette situation, a maudit Cham, Ram, et Nimrom est descendant direct de Ram. Et qui vient ensuite après Ram, je vous le donne en mille, Canaan, qui sera lui aussi maudit. Faisons-nous un nom. Et savez-vous que dans les temps qui viendront, que l'Antichrist, parce que c'est son nom, lui aussi veut se faire un nom. Ça m'a frappé, ça, quand j'ai relu ça. Parce qu'il faut aller feuilleter non seulement la Genèse, mais aussi l'Apocalypse, parce que ce que je vous dis là, l'histoire de la statue de Nebuchadnezzar, vous le retrouverez dans l'Apocalypse. Il y a simplement les termes qui changent. Les royaumes, vous les retrouvez dans l'Apocalypse, et la Babylone aussi. Eh bien, l'Antichrist, vous savez ce qu'il veut comme nom ? Je vais vous le dire. Ça m'a frappé. Je me suis dit, mais en fait, dans la Bible, tout le monde a un nom. Et lui, il veut un nom. Mais vous savez ce qu'il veut comme nom ? Il veut le nom du Christ. Parce qu'on l'appelle l'Antichrist. Jean dit, il arrive, l'Antichrist. Jésus dit, celui qui vient après moi, c'est l'Antichrist. Et il dit aux Juifs, à Israël, il dit, moi, vous ne m'avez pas reçu, mais celui qui viendra, vous allez le recevoir, il viendra en mon nom, mais ça sera l'Antichrist. En fait, l'Antichrist usurpe le nom de Christ, car il voue à ce nom une haine terrible. Vous savez qu'au début, quand les premiers Juifs se sont convertis, on a interdit aux chrétiens de prêcher à quoi ? De prêcher le retour, de prêcher je ne sais pas trop quoi, le don des guérisons, de prêcher ci, de prêcher là. Nous vous empêcherons de prêcher à quoi ?
Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. C'était interdit. Le sang qui coule dans ses veines ne cesse de répéter Christ. Christ, les battements de son cœur. Christ, je veux être le Christ. Je veux être le Christ. Je veux être le Messie d'Israël. Il le sera pour un temps. Apocalypse. Pour un temps seulement. 3 ans et demi. Mais ce sera le faux Messie. Il dupera Israël et les nations avant de se retourner contre Israël et contre l'Église. Il veut porter ce nom à n'importe quel prix, et pour cela, il vendra son âme au diable. Babylone, voilà la confusion politique, religieuse et sociale que nous retrouverons dans le livre de l'Apocalypse. Les grands tyrans ne luttent jamais tout de suite contre la religion. Ne vous faites pas d'illusions. D'abord, ils essayent de ramener sur leur étendard, ils font du social. Voilà, c'est très bien le social. Alors on fait du social, on rassemble tout le monde. Et puis après, comme ça marche bien, eh bien on attaque un peu la politique par les bords, et après on les met, allez hop, on les a englobés dans notre politique, et puis après c'est très facile, on sort ses dieux et tout le monde suit. C'est comme ça que ça marche. Et ça ne changera jamais. Faisons-nous un nom, alors que Dieu, dans la Bible, vous savez ce qu'il fait, Dieu ? Il cache le sien. Ah, ça c'est incroyable. Dieu cache son nom. Avec Moïse, dans un buisson d'épines qui brûle, mais il ne se consume jamais. Ah, ça se fait ça. Ce buisson, il brûle, il ne se consume jamais. Eh bien, parce que c'est attaché. Vous savez que le premier insigne de l'Église réformée de France, c'était justement un buisson d'épines. Et à l'intérieur de ce buisson, vous regarderez hein, dans votre histoire, à l'intérieur de ce buisson était écrit en hébreu Yahvé. Un buisson qui brûlait, mais le nom Yahvé ne se consumait jamais. Et dans la traduction de l'hébreu, Echer Aye Echer, qu'on traduit par « je suis qui je, celui qui suis », c'est faux, c'est un futur, c'est « je serai qui je serai ». Et certains grands rabbins disent que c'est un présent perpétuel. Ah, j'aime bien. Un présent perpétuel. C'est extraordinaire. L'homme veut se faire un nom. Alors que Hachem a de la difficulté à dévoiler le sien. Et lorsqu'il décidera à Dieu de dévoiler son nom, vous savez ce qu'il va faire ? De le dévoiler pleinement ? Il le fera à travers un nouveau-né. Emmanuel. Un enfant. Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, c'est l'humilité de Dieu. Faisons-nous un nom, c'est l'esprit de Babel, c'est l'esprit de Babylone, c'est vouloir atteindre le ciel en construisant des tours plus hautes les unes que les autres. N'est-ce pas cela, aujourd'hui, que le monde politique et religieux s'applique à réaliser ? Vous croyez que je rigole, mais regardez ce qu'on est en train de construire partout. C'est celui qui va faire la plus haute tour inimaginable, même sur du sable, là-bas au Qatar ou je ne sais pas où. Un jour, il va y avoir un raz-de-marée, ça va tout tomber. Et les musulmans, quand ils construisent leur mosquée, il faut qu'elle soit plus haute que n'importe quel édifice religieux de France. Je ne sais pas si vous le savez. Faisons-nous un nom. N'est-ce pas l'orgueil démesuré de l'homme qui veut se prendre pour Dieu ? Se faire un nom, autrement dit, être vu, reconnu, voire parvenu. En ces temps difficiles, qui ne manqueront pas d'arriver, on y court à grands pas. Les chrétiens ne devraient plus avoir le goût du luxe, mais le goût de vivre dans la piété, la modestie et le contentement. C'est ce que l'apôtre nous dit dans une de ses lettres. Babel, c'est tout ce qui s'élève contre Dieu. En choisissant l'empire babylonien pour châtier son peuple, écoutez bien, en quelque sorte, Dieu dit à Israël, puisque tu t'es prosterné devant les idoles des nations sur toutes les montagnes environnantes de Jérusalem, je veux t'exiler à la source de l'idolâtrie, Babylone, la mère de l'idolâtrie. Il y a un verset dans la Bible qui est très intéressant. C'est au début de la Genèse. On nous dit, et c'est à ce moment-là qu'on commença à invoquer le nom de Dieu. La traduction est un peu oiseuse et beaucoup de rabbins ne comprennent pas trop pourquoi on dit qu'on commença à invoquer le nom de Dieu alors que justement, là, justement il va y avoir le déluge et va emporter l'ancien monde. Ce monde va être jugé parce qu'il pratiquait des choses ignobles, atroces. Et en fait, certains rabbins traduisent, alors on commença à invoquer le nom de Dieu comme une idolâtrie. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien dans les textes, on voit que le soleil, c'est bien le soleil, mais on l'avait aussi déifié, la lune, Ishtar, tout ce qui était dans la nature, on lui mettait un nom. On idolâtrait la nature. Et dans le texte, on sait que dans le Testament, on nous dit ils ont adoré la création au lieu d'adorer le Créateur. Oui, en choisissant l'empire babylonien pour châtier son peuple, il y avait en quelque sorte à Israël. Eh bien, puisque tu t'es prosterné devant les idoles des nations sur toutes les montagnes environnantes de Jérusalem, je vais t'exiler à la source de l'idolâtrie, Babylone, la mère de l'idolâtrie. Mais si Babylone et le monde veulent se faire un nom, Dieu, lui, veut nous en donner un. Ne l'a-t-il pas fait avec chacun de ses patriarches ? Abraham est devenu Abraham. Jacob est devenu Israël. Ah, si vous avez le troisième, j'ai un bonbon dans la poche, je vous le donne. Et Jéthro deviendra ?
Je sais pas
si. Jéthro deviendra ? Réuel, ami de Dieu. Regardez ça dans vos Bibles. Là, Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de même dans les évangiles. Simon s'appellera
Pierre.
Saul de Tarse s'appellera Paul. Très bien, etc. Et en acceptant Jésus comme Seigneur et Maître de nos vies, nous avons tous reçu ce nouveau nom, car c'est à Antioche, pour la première fois, où il a été donné à cette communauté judéo-messianique, ce nom est celui de
chrétien.
Ce nom, malheureusement, aujourd'hui, est plutôt associé à ce qui touche le religieux. Il est galvaudé, et bientôt vous demanderez à un adolescent ce qu'il veut dire. Il sera incapable de le rattacher à son origine, c'est-à-dire le Christ. Faites l'expérience. Alors, comme je l'ai déjà dit plus haut, le syncrétisme est à la porte de nos temples et Bouddha, Vishnu, Mahomet et Christ sont à la même enseigne au niveau religieux. Mais comme je le dis souvent et que je le répète ce matin, le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est une révélation de Dieu, transmise par Dieu lui-même à un peuple lui-même, Israël, et au monde à travers Jésus. C'est ça le christianisme. Jamais dans le monde religieux, ce nom a autant été combattu. C'est un nom encore aujourd'hui qui dérange. Israël lui-même ne veut pas entendre parler de ce nom. J'essaye des fois de correspondre avec des rabbins et comme vous saurez tout, hein, mon code c'est Yeshua en hébreu, eh ben vous êtes tranquille, j'ai pas de réponse. Hein. Par contre, si je mets Tartampion, j'ai une réponse tout de suite. C'est sérieux ce que je vous dis. Et pourtant, aucun autre nom n'a été donné sur la terre, dans le ciel, sous la terre, par lequel nous pouvions être sauvés. Quel nom portez-vous aujourd'hui? J'en ai fait une facile. Dupont? Durand? Dubois? Et le quatrième? Waouh! Ah, c'est beau! Eh oui! J'ai dit, je vais la faire quand même, c'est trop facile. Dugelet. Eh bien, ce nom vous conduira dans la tombe. Oui, ce nom nous conduira tous dans la tombe. Mais celui de Jésus, de chrétien, lui vous conduira dans le ciel. Eh oui, c'est simple des fois l'évangile. Un nouveau nom. C'est écrit dans l'Apocalypse. Et je leur écrirai un nouveau nom sur une pierre. Et je me suis cassé la tête pour savoir quel nom Dieu aurait pu me donner. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es bête, Gérard? Tu ne changeras jamais. C'est le nom de chrétien. Tout simplement. Quand l'Apocalypse parle que notre nom est inscrit dans le livre de vie, ce n'est pas par notre nom de naissance, mais celui que nous avons hérité de Jésus, chrétien, petit Christ. Je vais terminer. Israël, ayant rejeté l'alliance que l'Éternel avait traitée avec lui, attira sur sa tête de justes châtiments. Jérusalem fut livrée une première fois aux nations, et l'empire du monde qui devait appartenir au peuple de Dieu. Vous avez lu, vous avez entendu dans la liturgie Ésaïe, toutes les nations viendront à Jérusalem. C'est pas du pipeau. Toutes les nations un jour viendront à Jérusalem parce que le temple sera reconstruit pour adorer Dieu à Jérusalem. C'est pour ça que ce conflit israélo-palestinien dure depuis si longtemps et qu'il ne sera pas réglé avant que Jésus revienne. Vous ne faites pas d'illusions. L'Antichrist, il parviendra presque. L'Antichrist, il parviendra presque. Et après, il se dévoilera. on verra qui il est réellement. Ça sera terrible. Alors, l'empire de ce monde fut transféré aux gentils, à Nebuchadnezzar, qui le reçurent de la main même de Dieu, dans la personne de Nebuchadnezzar. Alors s'ouvrit la période appelée « Vous serez aujourd'hui, vous coucherez moins bête » que le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Ce sont les temps durant lesquels les grandes puissances de la terre dominent le monde civilisé et tiennent le peuple de Dieu plus ou moins asservi. Les rois d'Israël ne sont plus que des vassaux, et commencé à la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar en 605 avant notre ère, la période des gentils ne finira que lorsque Jérusalem aura cessé d'être foulée à leurs pieds. Et depuis 1967, Jérusalem n'est plus foulée aux pieds. Je n'invente pas, c'est de l'histoire politique. Depuis 1967, Israël n'est plus foulée aux pieds par les nations. Elle appartenait à la Jordanie, maintenant elle est capitale de l'État d'Israël. Alors les temps d'Israël reprendront leur cours, c'est-à-dire lorsqu'il reviendra à l'Éternel, en recevant celui qu'ils ont percé, Jésus le Messie. Voilà, pour la tête d'or de la statue, Nebuchadnezzar, le premier des royaumes. Amen.